Dialogue entre Congolais avec Alain de la présentation.
Bonsoir. Depuis ce lundi, ouverture à Kinshasa de la 6e édition de l'infrastructure en Afrique, partenariat pour le développement IPAB en sigle. Thème retenu pour cette année, secteur minier en RDC ou les défis de la relance. Comment le secteur minier peut-il relancer l'économie congolaise? Trois invités participent à cette émission. Valérie Moukassa, directeur de cabinet du ministre des Mines du gouvernement central. Monsieur Moukassa, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Arthur Kaniki, docteur ingénieur, expert en génie minéral et environnement et vice-doyen chargé de la recherche à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. Professeur Kaniki, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir, je suis en ligne.
Christophe Lutundula, député national de la majorité présent du parti politique au mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement, MSDD, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions, nous les avons déjà. Simon Piana de Kiev en Ukraine. Aujourd'hui, il est utopique de croire que le secteur minier congolais à l'état où il est peut participer à la relance de l'économie nationale. Ce n'est plus un secret que ce secteur est celui qui régorge la majeure partie des contrats du Léonin et c'est un secteur plein de prédation des personnalités. Si le Congolais veut aujourd'hui compter sur son secteur minier, il doit d'abord penser à imposer la réforme du secteur. Par là, j'entends la réforme humaine, législative et matérielle. Justin Kabuya de Kananga au Kasaï occidental, on ne peut rien attendre de cette relance minière si on ne procède pas à l'assainissement des dirigeants dans ce secteur. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Grand Hôtel de Kinshasa abrite depuis ce lundi la 6e édition de l'IPAB, Infrastructure en Afrique, partenariat pour le développement. Cette année, les échanges sont centrés sur le thème secteur minier de la RDC ou les défis de la relance économique. IPAB RDC Conférence Exposition est un forum qui se tient chaque année en RDC. Il permet d'explorer les stratégies de développement des infrastructures, particulièrement dans le secteur des mines, de l'énergie, du transport, des services bancaires et les télécommunications. C'est un forum d'hommes d'affaires qui, cette année, réunit une centaine d'opérateurs miniers. Monsieur le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, vous avez ouvert ce forum. Dites-nous si le secteur minier peut relancer l'économie congolaise.
En effet, le secteur minier congolais reste un secteur très important. C'est un secteur d'espoir dans la mesure où, dans l'état actuel, le domaine minier concédé ne représente que 34% du territoire national. Par ailleurs, les réserves géologiques dont dispose le pays sont encore immenses et non suffisamment explorées. Plusieurs campagnes de prospection révèlent que plus de 1100 substances minérales sont identifiées dans notre pays, dont 45 seulement dans la seule partie du Sud-Katanga, et dont l'exploitation rationnelle sera porteuse de beaucoup d'espoir pour le développement économique du pays. Pour consolider l'avenir, le ministère des Mines a élaboré un document intitulé « La vision du ministère des Mines de 2010 à 2015 », dans lequel il a consigné une projection des activités majeures pouvant être réalisées au cours de cette période dans le but d'atteindre les meilleurs résultats socio-économiques, principalement l'organisation des différentes campagnes de prospection et la certification des réserves connues. En tant que secteur de croissance, au regard des projections des productions minières, la contribution du secteur minier au budget de l'État va passer à 50% du PIB vers l'an 2015, alors qu'aujourd'hui, elle ne représente que 23 ou 25% du PIB. Enfin, la création de plusieurs sociétés minières a augmenté le nombre d'emplois rémunérateurs, sans oublier les effets d'entraînement dans les provinces où vont se dérouler les activités minières.
Les propos du ministre des Mines que vous venez de suivre ont été recueillis par Agathe Mpona. Valérie Moukassa, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministre des Mines du gouvernement central. Avant d'aborder le sujet proprement dit de ce jour, juste un mot par rapport à ce nouveau forum qu'accueille la RDC. Merci. Ce forum que la RDC reçoit, c'est un forum important qui est organisé chaque année et au cours duquel les opérateurs miniers et les potentiels investisseurs prennent connaissance. Je sais que la République démocratique du Congo en son aspect relatif au secteur minier. Et donc, ils prennent connaissance et ils projettent pour ceux qui ont des ambitions à investir chez nous. Et par là, on dégage que tout naturellement, ceux qui viennent chez nous vont nous aider autant que possible, avec toute l'honnêteté que nous pourrons leur reconnaître, à contribuer efficacement à l'épanouissement de notre économie nationale.
Mais il y a certains observateurs qui pensent que l'IPAD c'est une bonne initiative, mais c'est encore et toujours l'initiative des autres. Et la RDC, quand est-ce qu'elle créera sa propre initiative?
La RDC créera son initiative un jour ou un autre. On commence toujours quelque part. Vous devez savoir, monsieur, autant que moi, que nous venons de très loin. La situation qui a prévalu dans ce pays depuis une trentaine d'années n'est ignorée de personne. Et maintenant, des efforts sont en train d'être fournis pour que nous essayions autant que possible de sortir du gouffre dans lequel on nous a plongés. L'initiative, certes, est des autres, mais c'est une initiative que nous faisons avec les autres. Ils ne peuvent pas la faire sans notre participation active, sans que nous puissions y contribuer d'une manière ou d'une autre.
Alors, pour revenir à notre sujet de ce soir, nous avons suivi le ministre des Mines tout à l'heure, qui affirmait que le secteur minier était un secteur porteur d'espoir pour la RDC. Quels sont, d'après vous, Valérie Moukassa, donnons un peu plus d'éléments sur ce qu'a dit le ministre, quels sont les préalables pour que ce secteur puisse réellement contribuer à la relance de l'économie congolaise?
Je dois commencer par confirmer que le secteur minier est porteur d'espoir pour la relance et la croissance de l'économie nationale. Ça, c'est une évidence et nul ne peut le renier. Les préalables, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Ministre de Mines, sont multiples. C'est des défis que nous devons relever. Le premier défi, c'est le défi de l'homme. Les difficultés que nous pouvons rencontrer sont de divers ordres et à divers niveaux. Il ne suffit pas simplement qu'au niveau du ministère des Mines, que nous ayons une gestion efficiente et orthodoxe pour qu'à tous les niveaux, tout soit correct. Les acteurs intervenants au niveau du ministère des Mines sont nombreux. Nous avons des acteurs sur le plan financier, sur le plan fiscal, parafiscal et autres qui concourent au même avec les acteurs du ministère des Mines à la réalisation de ce que la loi reconnaît au ministère des Mines. Alors, tous ces acteurs doivent avoir une même vision, les mêmes ambitions et le même objectif. Ça, c'est le premier préalable. Donc, c'est une question d'hommes. Il faut que nous ayons des hommes valables à tous les niveaux, les plus bas, le moyen et le plus haut. Le deuxième préalable, c'est que nous devons approfondir la prospection ou à tout le moins la connaissance de ce que regorge notre sous-sol. C'est ça qui va nous aider à dégager, un temps soit peu, les attentes que nous avons pour la réalisation des objectifs et atteindre les maximums des attentes vis-à-vis de ce secteur minier.
Merci Valérie Moukassa. Permettez qu'on vous donne la parole au professeur Arthur Kaniki. Professeur, je rappelle que vous êtes docteur, ingénieur expert en génie minéral et environnement et vice-doyen chargé de la recherche à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. Professeur, vous venez de suivre M. Valérie Moukassa. Quels sont les préalables, d'après vous, professeur, pour que le secteur minier puisse relancer l'économie congolaise?
Je vous remercie, j'ai bien suivi le directeur de cabinet ainsi que le ministre. Les préalables, à mon avis, on peut les résumer. Le tout premier, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on puisse avoir des hommes capables et valides, ce qui manque dans notre pays. Quand vous regardez l'administration des mines, Le poste principal, c'est un poste politique, on le comprend, mais les autres postes qui ne sont pas politiques, à mon avis, le recrutement devrait se faire sur base des critères solides et bien établis. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs niveaux, au niveau de l'administration, le recrutement est fait de manière que vous connaissez, c'est-à-dire une gestion proto-bantou. Par conséquent, généralement, on se rend compte que dans toute la chaîne de l'administration, on n'est toujours pas en présence de partenaires ou d'un personnel solide et capable. D'ailleurs, si aujourd'hui on doit révisiter les contrats miniers, c'est déjà une honte. On ne devrait pas se retrouver dans une telle situation. C'est-à-dire, ça veut dire que quand on a négocié ces contrats, on était en présence d'un personnel qui n'était pas capable et qui n'était pas solide de négocier des bons contrats. Donc, à mon avis, il y a d'abord une crise d'hommes, mais cette crise d'hommes, elle est due au fait que le recrutement, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà en place, n'ont pas voulu mettre en place des structures et des mécanismes de recrutement qu'il faut. Donc, c'est vrai que le secteur minier, c'est un secteur qui peut relancer l'économie de notre pays, mais il faudrait que la gestion, peut-être une gestion rationnelle, tant que la gestion ne sera pas rationnelle, à mon avis, on ne peut pas espérer un lendemain meilleur.
Donc, professeur, en parlant de gestion rationnelle, vous faites allusion, si je comprends, à la bonne gouvernance des ressources.
Oui, je fais allusion à la bonne gouvernance des ressources, entre autres, mais aussi à un recrutement d'un personnel solide. Vous imaginez aujourd'hui, on s'est complet à dire que nous avons des ressources inconnues, nous avons des réserves inconnues, mais à mon avis, ça ne devrait se pas comme cela. Nous sommes au 21e siècle, nous avons des universitaires dans ce pays. Donc, l'exploration en Afrique ou en Afrique centrale date du 19e ou du 18e siècle. Mais si aujourd'hui, au 21e siècle, on doit encore dire qu'on a des ressources non encore exploitées, encore connues, c'est vraiment une honte. On devrait connaître nos ressources. Vous imaginez un pays comme la RDC. Jusqu'à aujourd'hui, on est incapable d'avoir même un site web sur lequel on a une liste de tout ce que nous avons comme potentiel et chiffré. Nous n'avons pas une base de données, mais nous appelons les investisseurs, venez chez nous, alors que nous ne savons même pas ce que nous avons. Vous imaginez, vous ouvrez un magasin, vous dites aux gens, venez regarder ce qu'il y a dans notre magasin, alors que vous ne connaissez même pas ce que vous avez dans le magasin, ainsi que le prix, ce que ça coûte. Comme conséquence, nous avons des contrats néolais. Voilà où ça serait regrettable, il faudrait qu'il y ait une volonté politique à partir du sommet pour que, d'abord, dès le départ, on puisse faire un recrutement du personnel au niveau de toute l'administration, un recrutement sur base des critères bien établis, et qu'on puisse aussi connaître nos réserves, établir des bases de données pour qu'on puisse finalement faire venir les gens, pas faire venir les gens pour qu'ils viennent eux-mêmes identifier ce que nous avons, fixer le prix de ce que nous avons, et puis finalement exploiter, regarder la vitesse avec laquelle l'exploitation se fait chez nous. Mais le développement ne suit pas de la même manière. Donc, à mon avis, il y a un minimum de sincérité à afficher pour reconnaître que nous sommes en train de bricoler. C'est ainsi que beaucoup de gens disent que le code minier ou toutes ces activités que nous faisons avec une suite médiatique, ce sont des activités pour appeler les gens à venir piller les ressources que nous avons. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas nos ressources, nous ne les connaissons pas et nous les gérons très mal.
Merci, professeur honorable Christophe Lutondela. Bonsoir.
Bonsoir.
Juste rappeler que vous êtes député national de la majorité, président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD en cible. Vous venez de suivre le professeur Arthur Kaniki. Quels sont, d'après vous, c'est toujours la même question, les préalables pour que le secteur minier ou l'exploitation minière puisse contribuer à la relance de l'économie congolaise?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette question. Je vais essayer d'épingler certains préalables. Le premier, et qui me paraît naturel, c'est l'outil de production. Nous avons connu des situations dramatiques au lacune de la production dans le secteur minier parce que tout simplement nous n'avons pas pris soin de renouveler l'outil de production. Je crois que le cas de la Gécamine, le cas de la Niba sont assez éloquents de ce point de vue-là. Aujourd'hui, nous avons adopté la politique de saucissonnage et de vente par appartement de carrés miniers de ces deux grandes industries minières, entreprises minières du pays, pour justement permettre aux capitaux privés de s'investir et de nous apporter l'outil de production. Donc, nous devons avoir l'outil de production approprié Deuxième élément, dans le même sens, c'est la transformation de nos produits miniers pour que, lorsqu'ils arrivent sur le marché international, ils aient de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, j'ai cru noter, le directeur de cabinet du ministre de Mines est ici, peut-être qu'il pourra nous donner de l'éclairage un peu plus. Je crois qu'il y a une série d'actions qui ont été entreprises par le ministère. J'ai vu certains arrêtés ministériels, par exemple, concernant le diamant, qui demandaient à ce qu'on ne puisse plus vendre le diamant congolais en état, je dirais, naturel. Dans tous les cas, nous gagnerons davantage si on investit ou si nous incitons les privés à investir dans la transformation de nos produits miniers, qu'il s'agisse du cobalt, du cuivre, de l'or ou du diamant. Autre préalable qui me paraît essentiel, c'est ce fameux problème de capacités. Les capacités de gestion du secteur minier. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons avoir des hommes et des femmes qui non seulement sont compétents, mais sont moralement aguerris, moralement, si vous voulez, qualifiés pour, par exemple, négocier le contrat minier.
Et pourquoi vous ajoutez moralement?
Moralement parce que, je ne suis pas le seul, je suis juste ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, il y a toujours le problème de la corruption, le problème de la prédation. Et si vous jetez un regard sur les ressources naturelles en Afrique de manière générale, ce n'est pas seulement le problème du Congo, vous verrez que l'une des maladies dont souffre le secteur de ressources naturelles en Afrique, mines, bois, exploitation forestière de manière générale, exploitation même de l'eau, en tout cas, le secteur de ressources naturelles souffre de cette maladie qui paraît de plus en plus incurable et il faut une lutte contre la corruption et la prédation. Et là, ça pose la question de l'équation des hommes qui ont en charge la gestion de l'exploitation de nos ressources minières, parce que c'est cela dont il s'agit. Pourquoi tout à l'heure, j'ai suivi celui qui m'a précédé, il a abordé la question aussi. Je pense aussi que le directeur de cabinet que j'ai suivi a abordé la question. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une épine qu'il faut enlever sous le pied du secteur minier dans notre pays. Un autre élément qui me paraît essentiel, c'est la transparence et l'utilisation rationnelle des revenus provenant de l'exploitation minière. Et on pourra en parler à long et à large. Vous pouvez avoir une exploitation minière, une industrie minière qui vous produit des milliards. Si l'utilisation n'est pas transparente, n'est pas rationnelle, ça ne permettra pas à l'économie du pays de démarrer. Et dans ce sens-là aussi, je voudrais relever, vous poser une question. À quoi destinons-nous les revenus du secteur minier? Est-ce que c'est seulement à la consommation courante ou bien on fait l'investissement dans d'autres secteurs avec ça? On en parlera. Il y a le cadre institutionnel. Je note aujourd'hui qu'il y a des instruments qui sont là. Le ministère des Mines a élaboré un contrat type que nous, d'ailleurs, dans le cadre de la commission du tribunal, nous avons déjà exigé qu'il y ait un contrat type qui guide les négociations et la conclusion de contrats dans le secteur. Il y a la sécurité des personnes et des biens. Et là, je pense très rapidement à l'est du pays. Vous savez qu'il y a un pan entier de ressources minières qui était jusque-là, même aujourd'hui, parce que l'action ne fait que commencer, exploité dans le noir. Alors, il y a le code minier, qui n'est pas mauvais.
Merci, comment est-il appliqué? Merci, honorable, pour les différents éléments avancés. Mais il y a cet auditeur, Vitalia Kena Alfredo Ilacolesio Katanga, qui dit: les minerais étant l'une des ressources non renouvelables, ils doivent être exploités à bon escient pour que les générations futures arrivent à en bénéficier. Au jour d'aujourd'hui, les acteurs politiques négocient les différents contrats miniers au détriment de la population. Le secteur minier ne peut relancer l'économie congolaise que lorsque les acteurs politiques se préoccuperaient beaucoup plus de l'intérêt général et non des intérêts égoïstes. C'est encore et toujours vous les politiques, hein, là-bas.
Non, bon, moi je crois qu'il faut relativiser les choses et surtout il ne faut pas raisonner en sens unique ou en termes d'exclusivité en considérant que si on négocie nécessairement bien, ça va aller de soi. Non, effectivement il y a des responsabilités. Et moi, je ne préfère même pas généraliser en parlant des hommes politiques. Je parle des décideurs. Et les décideurs, ça part, qu'on le veuille ou pas, de ce petit fonctionnaire qui reçoit l'investisseur, qui discute avec lui, qui lui donne des éléments de négociation, jusqu'à celui qui négocie le contrat et à celui qui le signe. Et c'est pour cela que je vous ai dit, dès le départ, qu'il y a un combat très très acharné que nous devons mener contre la corruption et la prédation. C'est pour ça que je veux parler des capacités de gestion de notre secteur minier.
Maître Valérie Moukassa, le professeur Kaniki a évoqué tout à l'heure, il a confirmé que l'exploitation minière est déjà de mise à travers le pays, mais malheureusement le développement ne suit pas. N'y a-t-il pas là déjà une projection ou matière à craindre que ce secteur reste pratiquement le tendon d'Achille de l'économie congolaise?
Non, je crois qu'il faut avoir un peu de réserve lorsqu'on dit que le développement ne suit pas. J'ai dit dans mon propos de tout à l'heure que nous avons connu une situation assez désastreuse dans ce pays. Il faut considérer qu'au départ, le secteur minier a contribué à plus de 70% à l'économie nationale. Et le secteur minier a contribué de manière très significative au développement et à la construction du pays. Le grand problème qui se posait, on l'a dit, le professeur Kaniki lui-même l'a dit, l'honorable Lutunula vient de le dire, c'est une question d'hommes. Si vous avez des hommes, il faut, à la place, il faut, et qui ont tous conscience du bien commun, eh bien, le développement est garanti. Vous voyez, c'est ce que l'honorable Lutunula l'a dit aussi. Lorsque vous avez ce petit fonctionnaire, tout petit soit-il, qui n'a qu'une signature ou une information à donner, qui peut consciemment son travail, eh bien, rassurez-vous que nous sommes déjà au début du développement. Parce que là, nous avons des hommes rigoureux qui savent faire appliquer la loi et tout ce qui est prescrit.
Alors, à quand cette réforme de l'homme au sein du secteur minier?
Cette réforme, c'est aujourd'hui et c'est chaque jour. Vous devez considérer que le gouvernement ou l'État c'est donné comme cheval de bataille la réformation de l'homme. À tous les niveaux, on essaie autant que possible de faire en sorte que l'homme soit au centre de tout ce qui est fait, de tout ce qui peut être pensé et repensé. Et donc, c'est une démarche dans laquelle vous et moi sommes censés nous impliquer. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est chaque jour.
Nous allons prendre la question de cet auditeur qui est à Kananga au Kasaï occidental.
Gabriel Ilobakwe Ispero à Kananga au Kasaï occidental. Pour relancer l'économie nationale, je pense qu'il faut réviser les codes miniers et celui d'investissement qui accorde beaucoup de faveurs aux étrangers au détriment des nationaux. La conséquence logique est que l'économie nationale se détériore davantage.
Maître Moukassa, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Non, je crois que là aussi j'ai un peu de réserve. Le code minier ne donne pas beaucoup d'avantages aux étrangers. Seulement, il faut dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous les Congolais. Si nous avions autant de moyens que les étrangers, nous n'aurions même pas besoin qu'ils viennent. Nous aurions nous-mêmes produit des richesses sur place. C'est parce que les Congolais n'ont pas de moyens qu'ils sont en train de spéculer avec le titre minier. Et nous pensons que ceux qui ont des moyens peuvent faire quelque chose. Si c'est des étrangers qui viennent chez nous et qu'ils peuvent nous aider à produire des richesses, c'est tant mieux. Mais alors, là, dans ce cas, et les étrangers, et nous devons tous être dans le respect strict de la loi.
Alors, Maître Moukassa, le ministre des Mines a aussi affirmé que d'ici 2015, la contribution du secteur minier au budget atteindra les 50% pratiquement.
Absolument. Vous devez considérer que depuis 2006, fin 2006, début 2007, mais plus précisément 2007, le secteur minier ou la contribution du secteur minier à l'économie nationale est en train de croître de plus en plus. Et les projections et les statistiques qui ont été faites sur base de productions à venir montrent avec évidence que le secteur minier va contribuer à plus de 50% à l'économie nationale.
Professeur Arthur Kaniki, il y a là une dualité que l'on observe souvent entre le développement du secteur minier et la protection de l'environnement.
Oui, Oui, effectivement, ça c'est un problème très important. Avant de dire, si vous permettez, je voudrais quand même souligner une chose, que je suis d'accord avec les intervenants de tout à l'heure, mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que quand on dit que le développement ne suit pas, je prends un exemple banal. En 1911, la production du cuivre au Congo, ou au Katanga, c'était environ, donc, c'était environ 11 000 ou 18 000 tonnes de cuivre par an. Et les routes, on connaissait leur état. Mais si, de 1911 jusqu'à vers la fin des années 1990, on se rend compte que la production est passée de 11 000 ou environ une dizaine à environ 500 000 tonnes, mais on se rend compte que les routes sont restées les mêmes. Vous imaginez, tout ce qu'on produit passe par les routes pour aller à l'exportation, pour aller à l'étranger. Mais quand on dit que le développement ne suit pas, c'est-à-dire les infrastructures ne suivent pas, les mêmes infrastructures qui étaient en place au moment où on produisait une dizaine, mais ce sont les mêmes infrastructures qui sont en place au moment où on produit 500 fois plus. Bon, pour le moment, je suis d'accord. Hein. Les projections montrent que d'ici peut-être l'année prochaine, on va produire jusqu'à 350 000 tonnes de cuivre par an. Mais est-ce que les infrastructures vont aussi suivre? Pour revenir maintenant sur le plan environnemental, le portrait, il est très sombre. D'abord, toute la production qui date du début de la transformation des produits bruts jusqu'à maintenant, mais quand on regarde sur le plan environnemental, le tableau est sombre. Tous les rejets miniers solides qui ont été générés à l'époque sont très mal entreposés. Les effluents liquides ont été envoyés dans les milieux récepteurs sans aucune précaution pour la protection de l'environnement. Et même maintenant, quand vous faites l'inventaire au Katanga, pour le moment, nous sommes à environ 200, plus de 200 entreprises minières. Mais quand vous faites un petit contrôle à travers ces entreprises, vous allez vous rendre compte que c'est moins d'une dizaine qui respecte le minimum de dispositions environnementales. Les études d'impact environnemental sont des études totalement bâclées. Donc, bref, le développement ne suit pas et la protection de l'environnement ne suit pas non plus. Le Congo réputé être scandale géologique, à mon avis, si on ne fait pas attention, sera un scandale géologique bientôt. Quand vous faites un tour à travers le Katanga, vous allez vous rendre compte que les cours d'eau où on pouvait pêcher du poisson, où on pouvait avoir des crabes, on pouvait avoir des crevettes, etc. Toutes ces espèces, on ne peut plus les voir. Les étendues des sols sont devenues non utilisables. Pourquoi? Parce que le développement, l'exploitation a été faite de façon tout à fait anarchique. Donc, à mon avis, si les hommes continuent à être les mêmes, les textes changent. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que le code minier, bien on peut reprocher au code minier certains aspects, mais à mon avis, c'est quand même un texte de départ. Mais si les hommes restent les mêmes, et ces hommes sont face au texte que nous avons, à mon avis, ça sera un scandale géologique auquel on doit s'attendre tout prochainement.
Merci, professeur honorable Lutundu, la RDC scandale. Éthologique, aujourd'hui, scandale géologique, d'après le professeur Arthur Kaniki. Comment concilier le développement du secteur minier et la protection de l'environnement, finalement? Non, moi, je pense que nous risquons de tourner à rond parce que le paramètre, me paraît-il, déterminant aujourd'hui, c'est le paramètre homme. Quand vous lisez le code minier, si vous lisez une série d'instructions données par le ministre des Mines, partout, on est soucieux de la protection de l'environnement, d'autant plus que nous avons des engagements internationaux dans ce domaine-là. Mais le vrai problème, dans notre pays, en matière de ressources naturelles, comme dans tout autre secteur, c'est l'impunité. L'impunité, c'est l'homme. Ses capacités, et je reviens encore sur la moralité, parce qu'en termes de formation, en termes des cadres qui sont censés avoir les capacités de gestion, quel que soit le secteur que l'on prenne, Nous avons des hommes formés, nous ne sommes pas en 1960, on comptait des universitaires de bout de doigt. Mais le problème dans notre pays, c'est que chacun peut croire qu'il peut faire n'importe quoi, on ne peut pas le punir. C'est ça le problème. Bon, j'ai ma petite expérience de la commission du tribunal. Nous avons relevé cela. Et si vous suivez dans tout ce qui se dit dans le secteur minier, au niveau du ministère et du gouvernement en général, même dans les rencontres internationales, on revient sur l'environnement.
Mais le personnel chargé de veiller à ça, c'est ça la question. Et je voudrais également dire que lorsque nous parlons du fait que nous déplorons le fait que le développement ne suit pas le développement du pays, le développement en termes d'infrastructures notamment, et ne suit pas le niveau que nous espérons, ou les niveaux auxquels nous donne droit la quantité ou le potentialité de nos ressources naturelles. Le vrai problème, à mon avis, c'est l'utilisation rationnelle de revenus provenant de l'exploitation de nos ressources naturelles en général, des ressources minières en particulier. Et j'ai parlé de cela tout à l'heure.
Alors, Maître Moukassa a confirmé les propos du ministre de Mines, d'après lesquels la contribution du secteur minier au budget passera de 23%, je pense, à près de 50%. Alors que vous posez la question maintenant, où va cet argent?
Oui. Et cette contribution ne pourra faire le passage, ce bon quantitatif dont parle le ministre, par condition que nous puissions changer notre façon de gérer le secteur minier, à condition que tout le monde impliqué dans le secteur minier sache qu'il y a l'œil de l'État sur son comportement. Et sur ce point-là, il est important de dire qu'il n'y a pas que le ministère de Mines qui est impliqué. Parce qu'on a tendance à dire, oui, le ministère de Mines, et que non, il y a un ministère très important. C'est le ministère de la Justice avec tout ce qu'il a comme cour et tribunaux, comme appareil de répression. Nous avons dit tolérance zéro. Tolérance zéro, il faut l'appliquer aussi au secteur minier. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Nous ne pourrons atteindre cette croissance-là, à mon avis, que si nous savons investir dans le secteur minier aussi. Je vous ai parlé de l'outil de production. Ça ne sera pas une génération spontanée. Il y a un effort d'assainissement qui est fait à l'Est aujourd'hui. On a arrêté l'exploitation anarchique désordonnée et tout à fait négative parce que ça ne rapporte rien à l'État. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le ministère. OK. Mais il faut maintenant aller vite vers l'exploitation, si vous voulez, industrielle, l'exploitation formelle.
Maître Moukassa, il y a des auditeurs qui nous écrivent. L'honorable Lutundula parle des efforts d'assainissement du secteur minier. Il y a Ogu Kapasaïla Bukavu Sud-Kivu. Comment faire décoller la RDC, scandale géologique, parce que les décisions, quand les décisions du président de la République sont constamment violées dans cette matière. Trésor Wanadi de Kinshasa, si l'État veut la relance du secteur minier, il doit céder les plus grandes sociétés comme la MIBA et la GKMIN au privé parce que l'État lui-même n'a pas de moyens. Là, c'est une question assez complexe. De dire l'État n'a pas de moyens, c'est vrai, l'État est en difficulté et ces difficultés sont connues de tous. Mais ce n'est pas nécessairement par là que passera la solution. La solution, nous le disons, tout tourne autour de l'homme. Mais les problèmes sont aussi évidents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'AMIBA? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la GKMIN? Il faut naturellement, comme a dit l'honorable Lutundula, penser à renouveler l'outil de production. Pour renouveler l'outil de production, il faut commencer par avoir des grands moyens. Et les grands moyens, pour les avoir, il faut créer des richesses. C'est vrai, peut-être que le secteur minier duquel nous attendons toutes ces richesses ne nous les donne pas dans l'immédiat. Il faut penser à diversifier aussi nos sources de revenus. Le secteur minier peut, comme nous le disons, contribuer à l'économie nationale à plus de 50% d'ici 2015, mais il faudrait qu'on pense aux autres secteurs pour que le jour où le secteur minier aille en difficulté, qu'il y ait un palliatif. Et donc, je peux pour me résumer, l'État est en train de fournir des gros efforts pour qu'il y ait des gens convenables à la tête de toutes les entreprises. Et GKMIN et MIBA, d'ailleurs, les personnes qui sont l'ensemble des personnes sur lesquelles on compte beaucoup et en qui on investit. Alors, l'État est en train de réunir tout naturellement des moyens financiers afin de permettre à ces sociétés de se refaire une santé financière. La GKMIN a de plus en plus de partenariats qui vont entrer en production ou pour lesquels la production a déjà débuté et lesquels elle peut atteindre des dividendes. Ces dividendes peuvent l'aider à refaire son outil de production et à redevenir elle-même
une société minière qui produit elle-même.
Et parmi les solutions, l'honorable Lutundula a insisté sur l'impunité, il faut mettre fin à l'impunité pour relever ce secteur.
Ça c'est un problème sérieux, mais c'est un problème auquel on est en train de s'atteler chaque jour pour que des solutions fortes soient données. Il y a déjà des impulsions.
Mais visiblement, il n'y a pas encore de signal fort.
Absolument. Peut-être que ce n'est pas encore très perceptible, mais ça sera tout naturellement très visible, parce qu'il y a une détermination tout à fait évidente du gouvernement à pouvoir arriver à cela.
Professeur Kaniki, avant de vous donner la parole, prenons cette question d'auditeur qui nous vient de Bukavu.
Robert Mahomet à Bukavu dans le Sud Kivu. Pourquoi chercher à relancer l'économie de la République démocratique du Congo par le secteur minier et non par d'autres secteurs pourtant également non moins importants? Ne serait-il pas une erreur en voulant reposer l'économie congolaise par un seul pilier?
Professeur Kaniki, Valérie Moukassa parlait déjà de la diversification des secteurs. Qu'est-ce que vous dites à cet auditeur?
Oui, moi je crois que l'auditeur il a raison. Donc en principe on ne doit pas avoir les yeux rivés sur le secteur minier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti à des 10 000 tonnes de cuivre à 500 000 tonnes de cuivre. Mais quand on a regardé les résultats, c'est catastrophique. Quand le secteur minier s'est effondré, mais tout le reste a suivi cet effondrement. Donc à mon avis, on ne doit pas rester cramponné sur le secteur minier, on doit regarder l'agriculture, on doit regarder même les entreprises de services. Donc il faudrait qu'on puisse diversifier pour rester compétitif. Parce que rester cramponné sur le secteur minier, à mon avis, ce serait une erreur très grave. Je prends le secteur du tourisme. Nous avons à l'est du pays, que ce soit même à l'est au sud-est, nous avons des sites touristiques très importants. Donc pour que le développement puisse être harmonieux et durable, à mon avis, il faudrait penser à d'autres secteurs. Il ne faudrait pas que les yeux, si vous voulez, le désir même du gouvernement puisse être centré sur le secteur minier. Il faut reconnaître une chose, c'est que le secteur minier n'a pas produit les résultats qu'on attendait. Parce que avec la production que nous avons pour le moment, je parle de 2000 jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, on a fait un pas. Mais comme je disais tout à l'heure, le développement n'a pas suivi. Quand vous regardez, pour produire du cuivre, on a besoin d'électricité. Mais bon, on veut augmenter le tonnage exporté, mais on ne pense pas à développer les infrastructures nécessaires pour cette production. Donc quand vous regardez l'électricité, bien que nous puissions exporter l'électricité, mais déjà sur le plan local interne, on est incapable de satisfaire le besoin qui est là. Donc il faudrait pas que les gens restent rivés sur le secteur minier. Et il faudrait qu'on puisse diversifier. Et puis, on doit faire un grand effort pour connaître nos réserves. Nous ne connaissons pas à ce jour nos réserves. Les quelques chiffres que nous disposons jusqu'à ce jour, ce sont des chiffres qui nous ont été laissés par les Belges. Donc, pour le moment, nous avons des universités, nous avons des compétences, etc. Il faudrait qu'on puisse nous-mêmes avoir une banque de données où on peut encoder les réserves bien chiffrées. Et même quand nous devons négocier des partenariats, que ce soit des partenariats tout à fait négociés de façon rationnelle. Je prends le cas de la Gécamine. La Gécamine a bradé, ça c'est le bradage. La Gécamine a bradé tout ce qu'il y a comme ressource.
Merci, professeur.
On ne peut pas continuer comme ça.
Merci, professeur. Honorable Christophe Lutundula, il faut diversifier les secteurs, mais avec un budget de 7 milliards, cela est-il possible?
Oui, je crois que la diversification de notre production est indiscutable. C'est l'évidence. Nous avons des potentialités énormes pratiquement dans tous les domaines. Et j'ai personnellement toujours insisté sur l'agriculture, sur l'énergie. On parle toujours des INGA, l'élevage. Donc nous avons, même si aujourd'hui, prenons une hypothèse de réflexion, que le secteur minier couvre par exemple nos besoins immédiats d'investissement, par exemple ça peut nous rapporter 9 milliards, prenons ça. Non, mais ça ne nous dispense pas de la diversification. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le secteur minier qui a l'avantage de rapporter un peu plus vite, les cycles si vous voulez, d'exploitation jusqu'à à la production des revenus, il est relativement court. Déjà, au niveau des négociations, vous avez par exemple le bonus de signature, vous avez les pas de porte. Déjà, à ce stade, vous avez quelque chose qui tombe. Alors, ce que nous aurions dû faire, c'est d'avoir une politique volontariste qui nous permettrait d'utiliser une partie, parce qu'il y a l'État qui doit fonctionner, de ce ressource provenant du secteur minier pour relancer les autres secteurs de production. Aujourd'hui, on peut donner en gaz les mines. Bon, n'allons pas loin. La coopération avec les Chinois, le contrat sino-congolais, c'est aussi en fait cette perspective-là. Nous avons des mines, nous avons le cuivre, le cobalt, venez à concurrence d'OTAN et vous négociez. Mais on ne peut pas faire ça avec l'agriculture, vous comprenez? Alors, ce qui fait que la panne se situe, je reviens à ce que j'ai dit, sur l'utilisation de revenus de nos ressources. C'est ça le problème. On parle de la Gécamine, on parle de la MIBA. Oui, d'accord, on peut parler de l'Optimo, on peut continuer. Nous exploitons ce qu'il y a. Le professeur Kaniki parle bien de l'évaluation de ce que nous avons potentiellement. Il a raison, parce que souvent, de ça que vous allez faire le marketing à travers le marché international pour attirer l'investissement sur les capitaux. Mais le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait?
Valérie Moukassa, le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait?
Le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? On essaye autant que possible de gérer l'État. Ça, c'est une question assez complexe à laquelle peut-être un expert du ministère des Finances pourrait répondre. Mais le budget, et là, c'est un budget de recettes et un budget de dépenses. Ce qui rentre, que ce soit du secteur minier, d'autres secteurs, est tout naturellement affecté aux différentes dépenses qui ont été prévues au budget de l'État.
Merci Valérie Moukassa. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministre des Mines du gouvernement central, parce que l'émission va déjà toucher à sa fin. Votre mot de conclusion.
Merci beaucoup. Je confirme, comme tout le monde, que le secteur minier est toujours porteur d'espoir pour la relance de l'économie, la relance et la croissance de l'économie nationale. Il suffit d'une gestion efficiente, rationnelle et des hommes convenables à la place qu'il faut pour que tous ensemble nous puissions nous impliquer au développement et à la refondation de notre République.
En un mot, il y a cet auditeur Kairi Matembera de Kalemio Katanga qui dit « Rien négliger, c'est ce que doit faire le secteur minier pour aider l'économie congolaise. »
Tout à fait. Rien négliger. On néglige pas l'agriculture, on néglige pas l'énergie, comme a dit l'honorable, on néglige rien. Et tout concourt à ce que nous ayons un développement tout à fait évident.
Professeur Kaniki, votre conclusion également, brièvement, je vous en prie.
Et ma conclusion, c'est que je demande aux dirigeants de ne pas vendre ou de ne pas brader le secteur minier. Le code minier qui est considéré par d'autres personnes comme étant un avis de vente publique ne doit pas l'être. Toutes les activités qu'on organise au Congo, on ne doit pas vendre d'enchères les ressources, nos ressources minières. Le secteur, je confirme aussi comme les autres, c'est un secteur porteur d'espoir, mais à condition qu'on puisse le gérer de façon tout à fait rationnelle.
Merci professeur honorable Christophe Poutine pour la conclusion. Bon, je veux dire ceci, que d'abord, le secteur minier est un secteur important, c'est incontestable, mais nous devons le gérer avec beaucoup de rigueur et nous livrer à une lutte acharnée contre l'impunité, contre la corruption et la prédation. Et enfin, sachant utiliser rationnellement le revenu du secteur minier, notamment par l'investissement.
Merci, honorable. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Guy Maté, Samuel Kachak, Kéline Kouté, vous l'ont préparé sous la supervision rédactionnelle de Ben Kabamba. Eric Sidiaka a été à la mise en onde. Bob Landou à la coordination technique. Alain Roumouchi, je vous l'ai présenté. Portez-vous bien. À demain. I'm going to go to the next one.